T'écoutes ça. Erdiwa.
Troisième souffle.
On va tous vous présenter.
Voilà. On va même tout présenter.
Quoi ? T'es sérieux ?
On dit ça ?
On va tous vous présenter.
Voilà. T'entends dans ton casque ?
Oui. J'entends à merveille. Okay. 5 sur 5. Même 10 sur 10. 250 000 sur 250 000. La lecture, en fait, c'est pour... Là, en fait, moi, je savais pas pourquoi je suis venue. Je sais pas trop comment... Je sais pas trop quoi lire.
La lecture, en fait, c'est pour... Là, en fait, moi, je savais pas pourquoi je suis venue.
C'est quoi qui me casse les oreilles?
Mais en tout cas, ce que tu sais, c'est que tu peux annoncer la nuit de la lecture. Du 24 juillet au 25 juillet 2014.
Ah bah voilà. Enfin, on m'entend. Moi je m'entends tout. Bonsoir.
Tosca va nous lire des textes de la revue Z à toi.
Voilà, je suis venue avec le dernier Z qui est sorti là, à l'été 2014. Et cette fois-ci, l'équipe est allée enquêter, rencontrer des gens à Vénissieux, donc dans la banlieue lyonnaise, auprès de personnes du quartier des Minguettes, comme on l'appelle. Voilà, c'est un Z bien rempli de beaucoup d'articles que je vous conseille vivement. Et là, je vais vous lire un article en particulier qui s'appelle « C'est quoi Al-Qaïda, c'est toi ?» Des Minguettes à Guantanamo, entretien avec Mourad Benchelali. Donc c'est l'histoire de Mourad qui est parti de Vénissieux, des Minguettes, pour aller en Afghanistan, qui s'est retrouvé à Guantanamo et son retour en France. Ça prend un peu de temps, mais ça vaut la peine de voir toute cette aventure. À l'été 2001, Mourad suit les conseils de son grand frère et décide d'aller en Afghanistan pour les vacances avec un copain. Partis pour quelques semaines, ils ne reviendront à Vénissieux que des années plus tard, au terme d'un périple qui les conduit jusqu'à Guantanamo. Privés de tout droit, ils y subissent la torture « Made in USA » avant d'être rapatriés dans les geôles françaises. Aujourd'hui, Mourad, devenu carreleur aux Minguettes, attend toujours le verdict de son procès. Rencontre. Z. Dans quelles circonstances as-tu été arrêté et emprisonné à Guantanamo ? Mourad. J'ai un grand frère qui se revendique comme djihadiste. Il va s'entraîner en Afghanistan depuis la fin des années 90. Il essayait régulièrement de m'inciter à partir. C'est un pays super, je connais plein de gens là-bas. Et puis j'ai remarqué que tu as toujours délaissé la religion. Ça va te remettre sur les rails. Un jour de 2001, il vient me voir. J'ai un ami, Nizar, il veut y aller. T'es d'accord pour partir avec lui ? Le fait qu'il y soit allé, qu'il soit revenu, ça me rassurait. Et puis on trouvait ça excitant. Moi, je n'avais jamais voyagé. Mon frère disait « Là-bas, tu vas au marché, tu t'achètes une kalachnikov, tu vas dans un champ et tu défourailles tout comme tu veux. » Le contexte n'avait rien à voir. Maintenant, on regarde avec les yeux de l'après 11 septembre. Mais à l'époque, à part les journalistes spécialisés, Ben Laden, qu'il connaissait. Donc, je me suis laissé convaincre et on est parti avec Nizar pour l'été. J'avais 19 ans, une petite amie, ma petite vie. Je travaillais comme agent de médiation pour la ville de Rieux. On est arrivé en juin. En septembre, c'était les attentats. Si on s'était imaginé. On arrive en Afghanistan via Londres et le Pakistan grâce à des amis de mon frère. On loge à Jalalabad, dans une sorte de grande auberge, pour combattants venus de l'étranger, et sommes pris en charge par des Algériens qui parlaient un peu français. T'étais nourri, logé gratuitement. Rapidement, ils nous ont dit « Bon, vous allez aller là où vont tous les jeunes, vous allez faire du sport, ça sera bien. » Et on s'est retrouvés dans un camp d'entraînement au milieu du désert de Kandahar. C'était dur, mais une fois qu'on y a mis les pieds, on ne sort plus, à moins d'être vraiment malade. Ils insistaient pour que tout le monde finisse son stage. Et nous, les petits Européens, les petits Français, on est vus comme des petites natures. Par fierté, on veut faire aussi bien que les autres. Alors on s'est dit qu'on allait patienter. Ça dure 2 mois et demi. Nizar tombe malade, il sort à la moitié. Moi, je reste jusqu'à la fin, début septembre. Z. Les autres dans le camp d'entraînement étaient-ils plus impliqués que vous ou débarquaient-ils autant ? Le camp d'entraînement en Afghanistan jouait un peu le rôle de camp de redressement. J'ai parlé une fois avec un yéménite qui disait que son père l'avait envoyé là parce qu'il commençait à prendre de la drogue, à faire des conneries. Mais il y avait aussi une équipe de Tchétchènes qui voulait apprendre à manier les armes pour se battre contre les Russes. D'autres disaient qu'ils voulaient combattre aux côtés des talibans. Mais les conversations étaient limitées parce que Nizar et moi ne comprenions pas l'arabe. Il y avait des gens de tous les pays, des Canadiens, des Australiens, des Américains et même des Chinois, des Ouïghours. Au plan technique, on n'apprenait pas grand-chose, mais il y avait des discours, le djihad, combattre pour les talibans. Pour nous, ça a été un mal pour un bien de ne pas comprendre. On ne s'est pas fait laver le cerveau. Or, rien ne dit qu'on aurait échappé à la radicalisation. Et après le camp d'entraînement, comment ça s'est passé ? On était KO et on en voulait à mon frère. À cause de lui, on venait de faire un stage militaire. De retour à l'auberge de Jalalabad, on demande à un guide de nous ramener au Pakistan. Mais il nous dit qu'il s'est passé quelque chose de grave et qu'il faut retarder le départ. Massoud a été assassiné. Donc Massoud, qui donc est né en 1953 et mort en 2001, était chef militaire afghan ayant combattu contre les communistes afghans au pouvoir en 1978, puis contre l'invasion soviétique en 1979. En 1989, alors que les Russes se retirent, il engage ses troupes dans la guerre civile. Lui et ses alliés prennent le contrôle de Kaboul en 92, qu'ils perdent en 96 au profit des talibans. Il réussit néanmoins à garder la vallée de Panjshir, où il est assassiné le 9 septembre 2001, probablement par Al-Qaïda. Comment les gens en Afghanistan ont-ils réagi aux attentats du 11 septembre ? Tout le monde était content. C'était pas des manifestations de joie, mais on voyait dans les yeux la satisfaction que l'Amérique en ait pris un coup. Et vous, comment avez-vous réagi ? Moi et Nizar, on n'y croyait pas. C'était trop gros. Et on n'avait pas vu d'image à la télé. Mais on a senti que le piège était en train de se refermer quand à la radio, ils ont commencé à parler de Ben Laden, d'Afghanistan, de possibles représailles. En même temps, ça devenait surréaliste. On se retrouvait au beau milieu d'un événement mondial. On trouvait ça amusant, excitant, on en riait même. On a moins rigolé quand les avions des Américains ont commencé à envoyer des missiles. Notre maison n'était pas loin du siège des services secrets talibans. Ça a explosé pas mal là-bas. Le sol tremblait, les vitres éclataient, le ciel était rouge. Le lendemain, on entendait qu'il y avait 150 victimes ici, 200 là-bas. Ils se sont beaucoup « trompés » entre guillemets en tuant des civils. Avant le 11 septembre, quand les talibans tenaient le pays, les combats étaient cantonnés au nord de Kaboul où les combattants de Massoud étaient actifs. Puis, un jour de novembre, les talibans ont perdu Kaboul, puis les trois quarts du pays. Les Américains ne sont entrés dans le pays qu'après la fuite des talibans en décembre. Entre-temps, ils ont envoyé des émissaires, soutenu l'Alliance du Nord par les bombardements et distribué des valises de billets à pas mal de chefs de tribus et de responsables talibans pour qu'ils rendent les armes. Du jour au lendemain, les personnes qui étaient censées protéger la population, les talibans, ont pris leur clic et leur claque. Seule une poignée est restée à combattre. À nos yeux, le mythe des talibans comme grands combattants s'est complètement effondré. Comment te retrouves-tu aux mains de l'armée américaine ? À l'automne 2001, en Afghanistan, c'est l'exode massif. Alors les Pakistanais ont fermé les frontières pour éviter le raz-de-marée et permettre aux Américains de mener des arrestations. Notre seul échappatoire était la montagne. On était des milliers, adultes et enfants, à s'y cacher et à se protéger des bombardements. Beaucoup sont morts en route. Au bout d'un mois, vers mi-décembre, des villageois de Parachina, au Pakistan, viennent nous proposer de nous faire passer la frontière. Arrivés à Parachina, on est bien accueillis, nourris, logés. Avec Nissar, on explique qu'on veut rentrer, puisqu'on a toujours nos passeports et nos billets d'avion. Ils disent « pas de problème », nous emmènent à la mosquée, ferment les portes et appellent l'armée pakistanaise. On comprendra plus tard que c'était un coup monté, que le guide et sa bande étaient payés par les Américains pour livrer des fugitifs d'Afghanistan. Est-ce que vous vous rendiez compte déjà que les Américains étaient capables de torturer et des pires violences ? Ou est-ce que vous vous disiez que c'était des « gentils » entre guillemets ? Oh, clairement, on a cru que c'était la délivrance. On nous a dit « la CIA va venir vous interroger. Super, on va leur dire qu'on est français, qu'on a passé 2 mois là, ils nous ramèneront à l'ambassade de France. » Au pire, ils nous taperont un peu sur les doigts parce qu'on a passé la frontière illégalement, pas grave. On vient de voir la mort, on a évité les bombes, on est encore vivants. En plus, les Pakistanais n'ont pas été tendres avec nous. On pourra l'expliquer aux Américains. Mais ils nous embarquent dans des fourgons, cagoulés, jusqu'à une base militaire où des camions aux phares allumés forment une piste éclairée. Un par un, on passe au milieu, devant un mec avec une liste qui dit nos noms et nous informe qu'on est considéré comme ennemi combattant. Nous, on est sonnés. Ils nous attachent et commencent à nous frapper. Puis on nous transfère en avion vers Kandahar, dans une autre base militaire. On est tous numérotés, on nous a rasé la tête, on nous déshabille. On ramasse des pierres toute la journée, pour rien, juste pour faire des tas. Les militaires commencent les interrogatoires, ce genre d'échange. Vous êtes d'Al-Qaïda. C'est quoi Al-Qaïda ? C'est toi. Pendant ces 3 semaines, on nous a fait des scènes comme à Abu Ghraib, ce que je ne raconte pas trop dans le bouquin, parce qu'il y a des choses que je préfère garder pour moi. Donc il a écrit tout un livre où il témoigne de cette histoire de manière encore plus développée que là. En tout cas, ils nous ont traités de telle manière que j'ai pensé à ce moment-là qu'ils ne nous laisseraient jamais ressortir pour raconter, qu'ils allaient nous fusiller l'un derrière l'autre après avoir tiré le maximum d'informations. En janvier 2002, Nissar et toi êtes transférés sur la baie de Guantanamo, une base américaine située sur l'île de Cuba. Donc il continue. En janvier, nous sommes 300 à être envoyés dans un camp provisoire, le camp X-Ray, en attendant la construction du camp Delta. Nous avons appris par hasard que nous étions à Cuba, par la Croix-Rouge. Pendant 4 mois, nous vivons dans des cages en extérieur. Grillage en métal, 2 mètres sur 2, sol en béton. On est nourri une fois par jour au début, on fait nos besoins dans des seaux, c'est dégueulasse. On n'a pas le droit de parler, de communiquer, il faut rester toute la journée dans la même position. C'est vraiment très très dur. Les journées sont rythmées par des interrogatoires de plus en plus violents. Officiellement, tu étais prisonnier de guerre ? Non. Comme le statut de prisonnier de guerre est strictement encadré par la Convention de Genève de 1949, le gouvernement des États-Unis nous a donné le statut d'ennemi combattant pour contourner les règles. À quoi ressemblait la vie à Guantanamo ? C'est organisé pour qu'on souffre psychologiquement. Pas de courrier, nourriture insipide, interrogatoire, manque de sommeil. Les gardiens ne nous laissaient pas dormir. Les responsables semblaient réfléchir tous les jours aux moyens de nous casser. comme s'il s'était dit « Maintenant, faut être sophistiqué dans la torture. On est des Américains. On ne peut pas torturer à l'électricité. Il faut qu'on trouve de nouvelles méthodes qui ne laissent pas de traces. On va tout essayer. » À mon avis, ils se sont vite aperçus qu'ils n'auraient pas d'infos, parce qu'il n'y en avait pas en vérité. Mais il fallait bien qu'on serve à quelque chose. Et comme ils n'étaient pas calés en matière de terrorisme, on a vu comment ils nous interrogeaient, ils étaient vraiment nuls. Ils ont fait de Guantanamo un système d'expérimentation de techniques à exporter, par exemple pour d'autres prisons secrètes. Guantanamo a été leur camp d'entraînement à eux. C'était vraiment le laboratoire. À un moment, il y avait plus de psychologues que de gardiens. Donc là, il nous explique un petit peu. Les mémos divulgués par Wikileaks montrent l'importance de ces équipes de psychologues spécialisés en sciences comportementales qui avaient un pouvoir décisionnel majeur dans l'exploitation des prisonniers interrogés, précise l'équipe de Wikileaks sur le site wikileaks.org. Et donc c'est le dossier qui s'appelle Wikileaks révèle les dossiers. Voilà, donc il y a des psychologues, pas seulement pour sélectionner et dire à des gens de partir de leur métier, mais aussi pour faire des bons centres de terrorisme et de torture. Donc, je reprends les interrogatoires un peu qu'ils pouvaient faire. Comment tu vas? Comment tu te sens? T'as pas de courrier? Ça te déprime? Ils voulaient récupérer le maximum d'infos pour savoir ce qui nous faisait le plus mal. Et de fait, un certain nombre de détenus ont perdu la tête. Au bloc des fous, ils étaient environ 70. Apparemment, ils ont administré du LSD à certains d'entre nous. Et ils en ont profité pour tester des médicaments. Ils nous donnaient des gélules dans des boîtes sans étiquette. Puis ils revenaient et notaient. Il fallait décrire ce qu'on avait. Moi, j'ai eu seulement des vomissements et des nausées, rien de grave, mais certains ont beaucoup souffert. Ils testaient différents trucs. La musique. On était attachés pendant des heures dans une cellule avec la musique à fond et des flashs de lumière. Le froid. On était attachés toute la nuit. Ils nous jettent de l'eau froide dessus et après ils branchent la clim à fond. Les femmes et le porno. Ils attachaient le détenu devant un striptease ou lui demandaient de simuler une masturbation ou le mettaient devant un film porno avec le son au maximum. Ils ont même testé la méthode douce. Parmi les prisonniers français, trois d'entre nous, on n'a jamais su pourquoi ces trois-là, étaient emmenés dans une salle super classe avec un fauteuil, un McDo. Et on leur mettait des DVD, Spider-Man. À la fin, on était très jaloux. Une bonne technique pour diviser les prisonniers. C'est une des particularités de Guantanamo. Ils ont réussi à créer un système de niveaux très élaboré, en fonction de ce que décident ceux qui conduisent les interrogatoires. Niveau 1, t'as un matelas, une couverture, une bouteille, brosse à dents, dentifrice. Niveau 2, t'as pas la couverture ni la bouteille. Niveau 3, t'as juste un bouquin. Niveau 4, t'as juste ton matelas et rien d'autre. Il y a aussi le camp 4. Dans cette section, tu étais habillé en blanc. Tu jouais au foot. Tu étais avec les autres pendant une partie de la journée. Logé à 8 ou 10 dans une grande chambre. Buffet le midi. On se serait pas cru en prison. C'est le camp qu'on faisait visiter aux journalistes pour leur montrer que la Convention de Genève était respectée. Pour certains détenus, ils servaient de sas pour arriver en bon état dans le pays d'origine, et aussi de récompense pour ceux qui coopèrent bien. On montrait des photos aux autres détenus. Vous avez vu? Si vous coopérez, vous irez au camp 4. Nizar y a passé 4 mois. Moi, j'y suis resté seulement 2 jours avant de sortir. Autre tentative pour nous diviser. Ils ont organisé un barbecue pendant la grève de la faim. On a fait beaucoup de grèves. Pour notre libération, et ensuite pour tout et n'importe quoi. Il faut dire qu'on ne raisonnait plus normalement, on était au bout du rouleau. Dans l'enclos de la promenade, les agents ont préparé des grillades. Ils nous donnaient ce qu'on voulait. On n'avait pas vu de la viande depuis des mois. La plupart ont craqué. Et le rapport à la religion, C'est paradoxal. La pratique de l'islam était très encouragée et organisée. On avait tous un Coran et il y avait l'appel à la prière 5 fois par jour, annoncé par les gardiens puis par des haut-parleurs. Il aurait été impossible de ne pas faire le ramadan. Quelles étaient vos relations avec les gardiens de Guantanamo ? Au début, au camp X-Ray, ils avaient été conditionnés pour voir en nous le mal absolu. Au camp Delta, ça s'est arrangé. Les équipes de gardiens changeaient tous les 6 mois. Les nouveaux étaient toujours meilleurs que les précédents. Le traumatisme du 11 septembre se résorbait. Ils ont dû entendre que les familles réclamaient certaines personnes. Le fait qu'on ait une famille prouvait qu'on était des êtres humains. D'autres ont tout simplement un cœur. Ils avaient vécu le 11 septembre, mais considéraient qu'on ne réglerait rien comme ça. Je leur ai donné ma version des faits, comme d'autres. Je suis encore aujourd'hui en contact avec d'anciens gardiens, notamment Brandon Neely, qui a beaucoup témoigné. Ça n'a donc pas été une période totalement désespérante ? Non, il y avait les bons jours et les mauvais. Les bons jours, c'était quand il y avait ces dialogues avec les gardiens, avec les autres détenus. On était environ 700. Et toutes les 2 semaines, on changeait de cellule. C'était le système. Au bout de 2-3 ans, on se connaissait tous. Et comme on venait de tous les pays, c'était vraiment de belles rencontres. On avait tous le sentiment d'être victimes d'un système très pervers, donc on se serrait les coudes. On s'est dit, la langue véhiculaire, ça sera l'arabe. Tout le monde l'a appris, même les Afghans. Mais la prison n'est jamais aussi longue que quand tu la vis comme une injustice. Au début, tu penses que tu n'as rien à voir là-dedans. Mais à force de t'entendre répéter la même chose, tu t'identifies avec le terroriste qu'il recherche. Tu arrives même à te culpabiliser, à te dire qu'au fond, ils ont raison, que tu n'étais pas en Afghanistan par hasard, etc. Tu finis par t'identifier au personnage qu'on te crée. Comment s'est passé ton retour en France ? On me l'a annoncé presque d'un jour sur l'autre, en juillet 2004. On avait été requinqués au camp 4, puis on nous a mis dans l'avion avec un jean, un polo, un sac de sport, avec nos affaires dedans. Détail particulièrement troublant, on nous a même donné des cadeaux, un sachet de lingettes, une couverture, une trousse de toilette. J'imaginais qu'à l'arrivée sur le tarmac, le ministre allait nous accueillir. Bienvenue sur le sol français, messieurs. À l'atterrissage, on entend effectivement des applaudissements. Sauf que ce n'est pas nous qu'ils applaudissent, mais la police. Mission accomplie, tout s'est bien passé. Le tarmac était noir de policiers. Un civil s'approche de moi, découpe les menottes en plastique que j'avais et les remplace par des menottes métalliques en disant « Commission rogatoire, vous êtes mise en examen par le juge Bruguière. » Je me dis « On va faire une garde à vue, peut-être qu'ils ont des questions à nous poser, normal. Ensuite, on va rentrer chez nous. » Mais on nous explique. Depuis le 11 septembre, on a besoin de faire des exemples. Pour nous, vous êtes considérés comme ennemi numéro 1. Voilà le retour Patrice en France, après toute cette aventure. Le 2e jour de la garde à vue, le policier qui m'interroge me sort un album photo. Ce sont des personnes qui sont soit en détention, soit mortes. On veut les identifier pour être sûr. Je vois la photo de mon père. Je suis perplexe. Ouais, on va t'expliquer. Ton père a été arrêté. Mon père, qu'est-ce qu'il a fait ? Mon père en prison ? D'ailleurs, ton grand frère aussi. On va t'expliquer. Je tourne la page, je vois mon autre frère. Je tourne la 4e page, je vois la photo de ma mère. Au début, je pense que c'est une simple technique policière. Au bout de 48 heures, je rencontre mon avocat pour la première fois, Jacques Debray, qui m'apprend que ma famille est poursuivie pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Mon père, ma mère, mes 2 frères sont en prison. Je venais de sortir de mon cauchemar pour entrer dans un autre. Après 3 ans à Guantanamo, tu te retrouves dans les prisons françaises. Après 4 jours de garde à vue, on est déféré devant le juge Bruguière. Nizar et moi sommes envoyés dans des prisons différentes. Ils ont eu la bonne idée de me mettre à Fleury-Mérogis, où ma mère était enfermée. Un enfer. De ma fenêtre, je voyais la prison des femmes. Je pense que tout était calculé. Ça a duré 1 an et demi. J'ai demandé souvent des parloirs internes pour la voir. Refusé. J'ai entamé une grève de la faim. Quand le médecin m'a dit que j'étais en train de perdre mes reins, j'ai arrêté. Ma mère a été libérée 6 mois avant moi, après 2 ans de prison. Le fait de la savoir là, après ce qu'elle avait déjà souffert, quand j'étais à Guantanamo, c'était insupportable. Elle était déjà âgée, malade du cœur, fatiguée. Officiellement, le motif de sa détention était le risque de trouble à l'ordre public. C'est là qu'on a vu le côté pervers et arbitraire. Même s'ils voulaient lui poser des questions, ils auraient pu la laisser en liberté surveillée, la placer sous contrôle judiciaire. Il y a vraiment eu une volonté de faire peur à la communauté de l'islam radical en faisant de notre famille un exemple. Que sont devenus tes parents ? Après le jugement, ma mère a pris 2 ans, ce qu'elle avait déjà fait en préventive. Donc comme elle venait de les faire, elle ne les a pas refaits, heureusement, quand même. Mon père, pareil, il a fait l'erreur de faire appel et a pris 5 ans ferme derrière. Mes parents ont été expulsés tous les deux en Algérie. En plus. J'ai 2 frères. Le plus grand, l'intellectuel du réseau, entre guillemets, il a pris 10 ans, le maximum. Il en a fait 7 et il est sorti. Et mon autre frère a fait 2 ans comme mes parents, alors qu'il n'avait absolument aucun rapport avec tout ça. Même ma petite sœur a fait une garde à vue. En fait, il explique... dans l'article, on explique par ailleurs que quand il est parti... quand Mourad est parti à Guantanamo, il y a eu des mobilisations dans sa ville, de ses proches, de sa famille, par rapport au fait qu'il soit arrêté injustement comme ça. Et du coup, leur réaction et leur mouvement dans les maquettes, ça a amené cette répression encore pire pour eux, quoi. Comment s'est passé ton procès ? Il est toujours en cours, non ? Le procès des Français de Guantanamo est super intéressant. On était 7, en comptant un Réunionnais, malade depuis longtemps, qui est allé direct en hôpital psy. En première instance, en juillet 2007, accusé d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise à visée terroriste, on est condamné à 1 an ferme, ce qui couvre à peine notre temps de détention en France. On fait appel, on est relaxé. Le parquet a fait appel. En troisième instance, la relaxe a été annulée. Depuis près de 2 ans, on attend la décision de la Cour de cassation, alors qu'en général, ça prend 6 mois. Tout ça est très politique. Pardon. Ainsi, pendant qu'on était en prison, on a fait une demande de mise en liberté. Il se trouve que c'était le jour des attentats de Londres, 7 juillet 2005. On nous a répondu. Par solidarité avec le peuple anglais, on ne peut pas vous l'accorder. Autre exemple, pendant son réquisitoire, la procureure Sonia Jemny Wagner a dit « Quoi qu'ils aient fait, j'estime que ce qu'ils ont subi est indigne d'une démocratie. » Elle a reçu un blâme du ministère. « Il faut être solidaire des Américains », l'a-t-on rappelé à l'ordre. Les autres, Français de Guantanamo, ne sont pas plus partisans du djihad que toi ? Du djihad, non. Certains sont plus pratiquants, mais combattants, non. La frontière est mince, pour être franc. C'est compliqué. Tu as les musulmans pratiquants. D'autres, très pratiquants, voire fervents, mais pas forcément djihadistes, parce qu'ils considèrent que la lutte armée ne rentre pas dans l'islam. Ensuite, il y a ceux qui disent que le djihad fait partie de l'islam, mais tu peux avoir un djihadiste qui est contre le terrorisme. Il dira que les bombes dans le métro, c'est immoral, mais en revanche, il partira se battre sur les fronts de guerre, en Syrie, en Tchétchénie. De l'autre côté, il y a les takfiri, les mécréants, qui considèrent que la fin justifie les moyens. Ils se disent que ce n'est pas grave, les bombes dans le métro, comme tout le monde va mourir un jour de toute façon. Ce déclic-là apparaît souvent chez ceux qui ont connu la guerre. Quand ils reviennent, ils ont vu des choses tellement dures qu'ils basculent. On ne devient pas du jour au lendemain terroriste. Je pense qu'il faut ce cheminement. Au sens littéral, le djihad signifie un effort. Au sens de l'effort sur soi-même. Après, ça a été dévoyé. Ce que j'ai compris là-dedans, c'est que quand tu creuses un peu, tu vois tout de suite que les motivations sont politiques et que la religion n'est qu'un carburant. On dit d'ailleurs que le mouvement des talibans a été impulsé par la CIA à l'époque de la guerre froide pour lutter contre l'armée soviétique en Afghanistan. À Guantanamo, j'ai parlé avec certains talibans, même avec l'ancien ministre de la Justice afghan. Ils disent qu'à l'origine, les talibans ont été créés par les services secrets pakistanais qui sont allés les chercher dans des écoles coraniques réputées de Peshawar au Pakistan. Ils les ont entraînés, armés et envoyés en Afghanistan, appuyés par les Saoudiens et Ben Laden. Les Américains se sont appuyés sur eux pour lutter contre les Russes. Ils étaient radicalisés, mais fiables. Comment es-tu perçu par les gens, les jeunes du quartier en particulier? Ne sont-ils pas fascinés par ton histoire, par l'Afghanistan? C'est sûr que les jeunes du quartier étaient curieux de tout ça. Mais au début, surtout, les gens n'osaient pas venir m'en parler. La prison, l'arrestation de ma famille, tout ça a fait de moi un terroriste plutôt qu'une victime. Je n'ai jamais eu de statut de victime. La vision d'un ex-détenu de Guantanamo n'a pas tellement changé en France. Ou déjà, être musulman, c'est chaud. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a voulu parler de Guantanamo à un juge français, il a évacué immédiatement la question. Quand j'allais faire la promotion du bouquin en Suisse ou en Belgique, la perception n'avait rien à voir. Les gens m'accueillaient comme une victime de l'arbitraire, qui a peut-être eu un parcours un peu compliqué, mais pas comme en France. J'ai fait le JT de 13h en Belgique. En France, ce serait impensable. Les journalistes qui m'ont sollicité ici ont fait de moi un terroriste repenti. Par exemple, un journaliste du Figaro, Aziz Zemmouri, qui m'a contacté à ma sortie de prison. J'ai refusé de le rencontrer. Il est allé voir Nizar, qui lui a tout raconté, je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Ensuite, il m'a rappelé en me disant « T'es sûr que tu veux pas me parler? Parce que ton pote m'a tout raconté. Alors je vais faire l'article comme si je t'avais rencontré. » Je n'ai rien voulu savoir et il a fait la une. J'ai rencontré Ben Laden. J'ai porté plainte, mais les avocats m'ont conseillé de laisser tomber. Le casting était préparé d'avance. C'était plié et emballé. L'ex-terroriste des Minguettes. Pour moi, tout aurait été tellement plus facile si je m'étais plié à ce stéréotype. Si j'avais dit que j'aime le djihad et que j'ai combattu aux côtés des talibans. J'aurais vendu 10 fois plus de bouquins. J'aurais été invité sur tous les plateaux. Tout le monde m'aurait cru sur parole. Mais le mec qui condamne la violence, ça n'intéresse personne. Ensuite, le bouquin est sorti en 2007, au moment du procès. Il m'a apporté un peu d'argent, mais tout est parti dans les dettes. La famille en prison, les mandats. Et maintenant, qu'est-ce que tu envisages? Vis-à-vis des jeunes de la cité, je voudrais militer. L'affaire Mohamed Merah m'a marqué. Je me suis pas mal identifiée à cette histoire. Son parcours, ses liens avec son grand frère. Je sais qu'il n'y a pas besoin d'être foncièrement mauvais pour se retrouver dans sa situation, puisque je me suis retrouvée en Afghanistan, les armes à la main. Je n'ai pas envie que demain, un mec que j'ai connu dans mon quartier devienne un Merah. S'il n'y avait pas eu le 11 septembre, qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être que je serais restée plus longtemps en Afghanistan. Peut-être que je me serais radicalisée. Pour beaucoup de raisons, je pense que pour moi, Guantanamo a été un mal pour un bien. Pas pour ma famille, c'est sûr. Mais ça m'a appris des choses sur la violence, ça m'a fait réfléchir. J'ai appris l'arabe, l'anglais. Pour le quartier, on m'a dit souvent « créer une asso », mais pour l'instant, je suis trop isolée. Que penses-tu des condamnations de 2 à 4 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes, dont viennent décoper les 3 jeunes d'une 20aine d'années qui projetaient de partir combattre en Syrie? Ne s'agit-il pas littéralement d'un procès d'attention? D'autre part, comment peut-on qualifier de terrorisme le fait de s'engager dans une guerre civile contre une dictature? Donc, je ne sais pas si la question est claire, mais c'est de parler de jeunes qui veulent s'engager pour aller combattre en Syrie et de leur donner 2 à 4 ans de prison ferme pour n'avoir rien fait, mais pour souhaiter s'engager pour aller en Syrie, en fait. D'un point de vue moral, On peut penser qu'aller combattre un dictateur aux côtés de son peuple opprimé n'a rien de criminel en soi, bien au contraire. Mais pour être totalement juste et objectif, il faut dire que les manipulations sont possibles et courantes. Le problème est donc beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Personnellement, je crois qu'ajouter de la violence à la violence n'est pas une solution. Même si je comprends que le Syrien qui voit sa famille décimée voudrait que le monde se mobilise pour le défendre. Parfois, on croit servir une cause alors qu'en réalité, on ne fait que rajouter du désordre à la situation. Du point de vue du droit, la justice antiterroriste procède à de graves dérives. Je me souviens avoir lu un passage du livre du juge Marc Trévidic, qui est le successeur du juge Jean-Louis Bruguière, « Les sept piliers de la déraison », qui parle de ces jeunes attirés par la guerre, où il emploie le terme de « frappe judiciaire préventive », tout comme les Américains parlaient de « frappe militaire préventive ». C'est une dérive du droit qui consiste à juger les gens sur ce que l'on pense qu'ils auraient pu faire, mais qu'ils n'ont pas encore fait. Voilà, c'est la fin de ce témoignage que je voulais vous lire parce que j'étais frappée par l'aberration du système dans lequel Mourad est pris et de l'injustice dont il est victime et comme elle est frappante, notamment à son retour en France et comment il est traité là-dedans, et avec une pensée pour sa famille et ses parents qui ont été renvoyés en Algérie.
C'est Bob qui va nous lire un texte de Jean-Pierre. À toi.
Alors, c'est les vœux de Jacques Brel le 1er janvier 68. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Jacques Brel, 1968. Ah.
On est de plus en plus efficace dans la mise en place de cette nuit de la lecture du 25 juillet 2014. Ça y est, nous sommes passés au vendredi tranquillement, puisqu'il est 0h38 sur votre radio, Radio Diwa, que vous écoutez peut-être pas loin d'ici sur le 107.5, et moi un peu plus loin, et peut-être jusqu'à très très loin sur le rdwa.fr. Et on a le plaisir d'accueillir maintenant Jana qui va faire les prochaines, quelques prochaines lectures courtes et qui présentera.
Alors on est reparti sur de la poésie. Du coup il y aura un poème de Victor Hugo, un ode de Rudyard Kipling. Et le troisième, en fait, il est de moi, puisque après tout, voilà, un jour faut se lancer. Demain des lobes de Victor Hugo. Demain des lobes, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers la Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Le poème suivant, du coup, c'est de Kipling. En VO, il s'appelle If. Et il est bien plus joli en VO d'ailleurs. Mais j'ai un accent horrible. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 patries, sans un geste et sans un soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser, sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire. Tu seras un homme, mon fils. Trembles-tu, en évitant les balles, entendant les bombes, de ceux qui se lèvent, s'arment et tombent, fracassant, emportant les dizaines, des milliers? Trembles-tu, devant ces invocateurs, ces annonciateurs, ces libérateurs aux gueules d'enfer? Sont-ils assez rouges, souffre-soufflant, pour te tétaniser, glacer ton sang? C'en est assez? Les démons déferlent de l'horizon. Les horreurs que tu contemples de ton salon chaque nuit se rapprochent en silence. Les ombres s'étendent sur ton bonheur. Mais je serai ton parangon face à l'oppresseur. Je suis là, avec mes techniques acérées et mes valeurs sûres, sois rassuré. Je suis ta liberté, ton asile, ta vérité. Tes espoirs futiles, je te garderai, sois-en sûr. À perpétuité, n'aie crainte, je suis là. Tu ne manqueras de rien. Goûtes-tu assez de satiété, de confort, pour justifier ta servitude, ton effort? As-tu assez d'esclaves pour polir tes chaînes? Le sexe et le sang comblent-ils tes papilles? Ton regard voit-il tous ceux que l'on m'admène, alors que tu te gaves, que tes sens s'éparpillent? Penses-tu, ô mon ami Passa, quelle erreur, fume plutôt l'opium, ou bois donc avec ardeur, que cette nuit encore tu n'entendes pas cette toute petite voix qui te supplie. Libère-moi. Papa, libère-toi.